Good morning, guten Tag, bonjour, bienvenue sur Melting Talk. Aujourd'hui, 24 novembre, je vous propose une interview que j'ai réalisée avec Frédéric Dutoit, député maire du 15-16e arrondissement à Marseille, que j'avais rencontré précédemment à propos de la loi DAFSI, la loi sur les droits d'auteur et droits voisins de la société de l'information, qu'il avait combattu avec justesse mais sans succès à l'Assemblée nationale à la tête d'un rassemblement inédit de députés de tous bords. Malheureusement, cette loi a été votée à l'Assemblée et au Sénat. Elle sera bientôt applicable en février 2007, si je ne me trompe. Mais cette fois-ci, je l'ai rencontré pour le questionner davantage sur ses motivations et engagements politiques à l'intérieur du Parti communiste français. Je tiens à préciser, si c'est encore utile, que je n'ai de carte ni à l'UMP ni au Parti communiste. Je réalise ces interviews car j'en ai la possibilité, comme celle faite précédemment avec Marie-Georges Buffet, avec grand plaisir d'ailleurs. Celle de Frédéric Dutoit a été enregistrée chronologiquement avant, c'était une façon pour moi de tester les questions. Mais comme vous l'entendrez, le ton est beaucoup plus décontracté. Donc, j'avais envie de commencer par ça. J'ai du rouge à lèvres, mais c'est tant pis. Hein. Je vais faire la bise à un communiste et montrer que je reste en vie. Voilà. Deux
bises, comme ça, une pour toi, une pour moi.
Voilà, donc j'ai embrassé un député communiste et j'ai survécu. Parce que il y a beaucoup de gens qui me disent comment tu fréquentes des communistes, mais c'est horrible, comment on peut être encore communiste en 2006? Alors je me suis dit, un jour, il faudra quand même que je pose la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être communiste en 2006 et quelle est l'attitude de quelqu'un qui veut s'engager pour la société? Pourquoi il choisit d'être au Parti communiste plutôt qu'ailleurs? Alors je suis donc avec...
Ben moi, c'est Frédéric Dutoit, maintenant je suis député communiste, bien sûr, et maire d'arrondissement à Marseille. Mais pourquoi être communiste aujourd'hui? Ben, tout simplement parce que, comme je l'ai fait quand j'étais, j'allais dire, minot à Marseille, je me suis engagé pour lutter contre les injustices, particulièrement celles dont ma famille avait été victime pendant toute sa vie, venant de familles ouvrières, employées, sachant que dans ces quartiers nord de Marseille où je suis, depuis que je suis né, il y a toujours eu des difficultés pour les gens du peuple, quoi, hein, pour les gens, notamment pour les jeunes qui sont au chômage, qui ne peuvent pas avoir de formation correspondant à leur souhait, et encore moins au travail qu'ils pourraient éventuellement faire, subissant les discriminations, etc. Voilà, donc moi je suis communiste pour que le monde change, ni plus ni moins.
Et est-ce que vous avez fait un choix avec d'autres partis? Est-ce que vous avez regardé un peu avant les autres partis possibles ou est-ce que c'était naturellement évident?
Ben, c'était naturellement évident. Alors évidemment, quand je commençais à m'engager, il y a eu l'expérience, plus qu'expérience négative, horrible, affreuse de ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, au nom du communisme, apparemment au nom du communisme, ce qui pour moi n'a rien à voir avec le communisme, parce que ça ne peut pas être l'atteinte aux libertés, voire quelques massacres quand on n'est pas d'accord avec la doctrine officielle du parti, etc. Tout ça étant des formes de dictature et de pays plus qu'autoritaires qui n'ont rien à voir avec ce que je peux faire tous les jours dans mon engagement pour que justement le monde change dans le bon sens. Depuis, le mur de Berlin est tombé, ce qui est une très bonne chose. Malheureusement, dans les pays de l'Est, par exemple, ou les autres pays communistes, ex-communistes, soi-disant communistes, les solutions qui ont été mises en œuvre, c'est-à-dire un capitalisme pur jus, un libéralisme à tout craint, où la force de travail, les salariés, les gens du peuple n'ont plus la possibilité de vivre correctement, même de vivre tout simplement, mais où ce sont encore une fois les plus forts qui écrasent les plus faibles. L'issue de ces pays qui étaient dans le communisme avant n'est pas positive pour autant encore aujourd'hui. Donc il y a vraiment beaucoup besoin de faire quelque chose d'autre que ces expériences profondément négatives.
Mais est-ce que le Parti communiste français, à un moment donné, a fait une sorte de crise d'identification ou de crise d'originalité par rapport à ces autres partis dits communistes?
Le Parti communiste a subi les contrefeux, le contrefeu terrible de la chute des pays de l'Est. Il a eu même une crise, entre guillemets, identitaire, au sens où il fallait bien quand même que les communistes se disent « Est-ce que j'ai quelque chose à voir avec ce qui a pu se passer dans les pays de l'Est ?» Là où les communistes, le Parti communiste a fait plus qu'une erreur de fond et stratégique, c'est que justement, pendant de nombreuses années, il s'est caché les yeux, quoi. Il a fait comme la poutille des trois singes. J'entends rien, je vois rien, je dis rien, quoi. Parce que c'était trop dur. D'ailleurs, humainement, ça peut se comprendre. C'était trop dur humainement de pouvoir constater que l'idéal pour lequel on s'est engagé depuis des années, depuis sa vie entière quand on était communiste, c'était perverti de cette façon par les pays de l'Est. Ça ne pouvait pas être concevable pour un communiste en France, alors que justement, en France, les communistes sont toujours battus depuis 1920, par exemple pour défendre la République espagnole, dans la résistance au nazisme. Ils ont participé avec d'autres, bien sûr, mais à libérer le pays. Ils sont engagés contre la colonisation et pour la décolonisation de la France notamment. Ils ont toujours été des combats pour les libertés et la démocratie. Et alors qu'eux-mêmes avaient ce combat depuis 1920, au nom du communisme dans les pays de l'Est, c'était l'inverse total, la contradiction totale, l'antagonisme total à ce combat qui était mis en place, mis en œuvre, et qui avait plus à voir avec, je le répète, j'allais dire pas du fascisme, mais oui, quasiment des pouvoirs autoritaires, des pouvoirs personnels qui ont été un drame et pour ces pays et pour la cause de ce qu'on peut appeler le communisme dans le monde. Mais d'ailleurs, il en reste encore, hein, voilà. Sans parler de Cuba, qui est encore un petit peu particulier dans la mesure où il y a vraiment une mainmise des États-Unis autour de Cuba pour faire tomber Cuba, donc une défense du peuple cubain contre les États-Unis, ce que d'ailleurs d'autres peuples essayent de faire aussi à leur façon, en Amérique latine particulièrement, mais il reste encore des pays dits communistes. Je peux pas d'ailleurs accepter qu'ils s'appellent communistes, mais bon, comme la Corée du Nord, qui est une dictature sauvage, inacceptable pour un communiste vrai, tel que moi je souhaite l'être, pour la liberté et la démocratie, et pour que chacun puisse vivre en fonction de ses moyens et de ses besoins, quoi.
Et la Chine ?
Et la Chine, qui est un vrai paradoxe, qui est un nouveau paradoxe, qui a à la fois une dictature politique, où la liberté est réprimée, et qui en même temps a peut-être l'intelligence de son point de vue de s'ouvrir au monde, et qu'en s'ouvrant au monde, justement, libère la possibilité des échanges avec d'autres pays dans le monde et devient un vrai rival, puisque même le capitalisme et les sociétés capitalistes que nous sommes voient en la Chine un vrai danger pour l'avenir, puisque la Chine développe ses capacités énormes de productivité et de production, et qui va mettre à mal pour beaucoup le capitalisme, le libéralisme dans le monde, quoi. Donc c'est un paradoxe. La Chine est par contre un vrai paradoxe, puisque la Chine s'est ouverte d'un point de vue économique. Je pense que c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Encore faudrait-il qu'elle se libère du joug de cette dictature politique que représente le dit Parti communiste chinois.
Et donc, est-ce que j'avais plus ou moins entendu dire à un moment donné qu'il y avait eu une polémique à l'intérieur du parti pour dire est-ce que ce serait pas utile de changer de nom, justement?
Oh, ben c'est plus qu'une polémique. C'est une à partir du moment où votre combat depuis le début de votre engagement est perverti par une réalité dans d'autres pays, comme ça a été le cas avec ces dictatures soviétiques et autres. Beaucoup de communistes se sont dit, mais bon, comme nous sommes effectivement assimilés par les gens en général, quoi, et qu'on le veuille ou non, quoi, par les citoyens dans la rue, dans les entreprises, tout le monde considère que le communisme est mort, que ça n'existe plus, ou si ça existe, c'était une horreur du passé. Évidemment, la question s'est posée par beaucoup de communistes sur la question du nom. Moi, je vais te dire très sincèrement, qu'importe le nom, pourvu que les gens s'emparent de leurs propres affaires, interviennent sur leurs propres affaires, sur la propre gestion des affaires du pays ou de la cité, et ne se fassent pas diriger par qui que ce soit d'autre que par eux-mêmes, quoi. Je crois que le Parti communiste, qu'il soit Parti communiste ou parti de ce qu'on voudra, ce qui m'intéresse, c'est le combat que l'on mène pour la libération humaine. C'est surtout ça qui est important.
Oui, mais le problème, c'est d'arriver à convaincre des gens et les faire passer par-dessus la réticence sur le nom. Parce que moi, honnêtement, les gens m'ont dit, mais comment ça? Mais les communistes, et je trouve ça incroyable que le message n'arrive pas à passer parce que les gens s'arrêtent au nom. Alors, il y a tous ceux qui le font de mauvaise foi parce que ça les arrange, comme on diabolise le Front National, bon, on en profite, on diabolise les communistes. J'ai entendu, les communistes ou le Front National, c'est deux extrêmes. Donc, moi, ça me fait un peu sourire parce que je pensais qu'à l'extrême gauche, il y avait encore plus à gauche que vous.
Oui, non, il y a encore plus à l'extrême gauche que nous, ça c'est clair. Hein. C'est évident sur le panel politique français, ça c'est sûr.
Donc à ce niveau-là, je me disais, bon, ben, pour faire passer un message et un combat pour un idéal, peut-être que, puisque la machine est en marche pour que l'amalgame perdure encore plusieurs années, il n'y a pas quelque chose à faire.
Pour moi, mon souci, c'est pas de faire perdurer le Parti communiste pour le Parti communiste. À la limite, on s'en fout, c'est pas le problème. Le Parti communiste n'a pas la vocation d'exister pour lui-même. Moi, je me suis engagé en politique pour que le monde change. Or, je constate que mon engagement, quand j'étais minot ou quand j'avais 17 ans, sur les valeurs de justice, de liberté, d'égalité, de respect de l'autre, etc., c'est ce combat-là, il est au moins toujours d'actualité. C'est le moins que l'on puisse dire. Quand on vit la vie de tous les jours aujourd'hui, on se rend bien compte que ce combat, il est pas fini. Il est au contraire, malheureusement, peut-être, mais il est devant nous. Il n'est pas derrière nous. Donc si ce combat-là, les gens, les citoyens, ceux qui sont sectairement contre le Parti communiste, parce que le sectarisme n'est pas réservé aux communistes, la preuve, des gens sectaires, il y en a de tous les bords, malheureusement aussi. Si ces gens-là sont prêts à s'engager pour que justement on aille vers d'autres solutions que celles qui prévalent aujourd'hui et depuis de très nombreuses années et qui sont mises en œuvre par des choix et qui sont toujours des choix politiques concrets et objectifs, soit dans l'économie, soit dans le social, si ces gens veulent s'engager et qu'ils veulent faire ça avec une autre force que le Parti communiste, moi ça ne me gêne pas. Construisons au contraire ensemble un rapport, une force avec des multiples personnalités et personnes qui soient capables de faire du communisme justement, c'est-à-dire pousser le plus loin possible la liberté et la démocratie. Quoi. Ça, si les gens veulent appeler ça autre chose que le communisme, moi je m'en fous qu'ils appellent ça autrement, c'est pas le problème. La question c'est qu'on le fasse. Or je crois qu'il y a beaucoup de monde. Beaucoup de citoyens, pour parler d'un mot qui est à la mode en ce moment, beaucoup de citoyens qui, quelque part, n'osent même pas assumer cette réalité. Parce que c'est quand même pas, c'est plus facile de critiquer que de dire qu'est-ce que je fais pour que le monde change. Or, tout le monde sait que le monde ne va pas bien. Tout le monde sait qu'il y a des gens qui meurent de faim en France aujourd'hui. Moi, je suis dans mes quartiers nord de Marseille. Il y a des gens qui s'en sortent, qui arrivent à avancer. Il y a des renouvellements dans ces quartiers. Mais il y a des gens qui meurent de faim, qui crèvent de faim. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Rien. On regarde le train passer et on dit « Ah, c'est pas moi, j'y suis pour rien ». Donc ceux qui critiquent ou qui pourraient me critiquer ou critiquer les communistes, ben, qu'ils prennent le taureau par les cornes et puis qu'ils s'engagent et puis qu'ils nous montrent l'exemple, comment on fait pour changer les choses. Je serai de toute façon avec eux s'ils veulent aller dans le sens de la transformation du monde et surtout dans le sens de la libération humaine.
Mais moi, je pose toutes ces questions parce que j'ai rencontré récemment, pour ceux qui connaissent bien mon podcast Melting Talk, des gens de l'UMP de Marseille, et je leur ai parlé de vous. Ils m'ont dit « Ah mais Frédéric Dutoit, c'est quelqu'un de particulier, il est très intelligent, il a une ouverture d'esprit telle que si tous les communistes étaient comme lui, il ferait beaucoup plus, il ferait un gros score au présidentiel, donc on peut que souhaiter qu'il n'y en ait pas beaucoup comme lui. » Mais bon, moi je retiens de l'histoire qu'il y a donc des gens à droite qui sont capables de reconnaître la valeur des hommes, y compris à gauche, y compris s'ils sont communistes, et mon souhait toujours, ça a été de me dire, mais pourquoi, enfin je sais qu'on a un peu la réponse, mais pourquoi il n'y a pas un parti qui rassemble les intelligences et les énergies et qui serait complètement hors des clivages droite-gauche? Ça fait tellement longtemps qu'on le dit. Alors en France, la seule solution, c'est de dire c'est des centristes, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire simplement le parti de l'intelligence.
Qui est déjà intelligent de tous les côtés, ça j'en suis convaincu. Mais le problème, c'est que notre intelligence, à un moment donné, elle nous permet de travailler ensemble quand on a besoin de travailler ensemble et quand il faut travailler ensemble. Je pense que les citoyens, comme on dit aujourd'hui, on parle de jury populaire, serait bien enclin d'élire ou de réélire des hommes et des femmes qui, justement, au lieu de faire de la démagogie, font du travail concret et sérieux pour défendre l'intérêt des habitantes et des habitants sur leur territoire. Mais après, ou en même temps, il y a toujours à un moment donné un choix à faire, à formuler et à mettre en œuvre. Et ce qui s'appelle un choix politique. On ne peut pas, par exemple, accepter aujourd'hui, je ne l'accepte pas, la privatisation de GDF, de Gaz de France, quand on sait, quand tout le monde sait, y compris les gens de bonne foi et intelligents de l'UMP, quand on sait que ça va avoir pour conséquence, d'abord, la casse de l'entreprise publique elle-même, avec la disparition d'un grand nombre d'emplois de cette entreprise, mais aussi et surtout et d'abord, une augmentation tarifaire pour les usagers, les entreprises, c'est déjà le cas, et pour les usagers, pour les particuliers. Donc, quand on vote à l'Assemblée nationale la loi de la privatisation de GDF, qui vient de passer d'ailleurs au Sénat, on vote pour que les citoyens français payent plus cher leur gaz. Et quand on sait, quand on regarde la loi et quand on regarde un peu la réalité, quand on sait que si on pouvait garder GDF dans en entreprise publique, avec ce qui est en train... qui est en train d'être liquidé, c'est-à-dire passer des contrats sur le long terme avec les pays producteurs du gaz, que sont l'Algérie, pour nous, ça nous concerne directement à Marseille, ou que sont la Russie, c'est un peu plus compliqué parce que justement le régime n'est plus stalinien, mais quelque part ça y ressemble, donc des contrats à long terme qui nous garantissent l'approvisionnement et donc qui nous garantissent des prix les plus bas possibles pour les usagers. C'est quand on fait donc la loi pour la case de GDF, on fait un choix politique. Et celui ou celle qui vous a dit ou qui t'a dit que j'étais quelqu'un de bien a voté cette loi de casse de GDF. Donc même si on est intelligent, on fait aussi des choix politiques qui ne sont pas les mêmes. Je crois qu'au-delà des intelligences que nous pouvons être, les citoyens, les gens doivent avoir clairement connaissance de ces choix-là. Parce que ces choix, ça les concerne directement. Et pour rester dans l'actualité, puisque quelqu'un a proposé des jurys, de mettre en place des jurys citoyens, des jurys populaires pour contrôler le travail des élus, c'est Ségolène Royal, pour ne pas la citer. Moi, je trouve que le terme jury est un peu bizarre, mais ça ne me fait absolument pas peur, puisque moi, je suis sous le contrôle du jury citoyen de mes quartiers toutes les semaines dans mes visites de quartier ou dans les réunions de conseils de quartier que je peux faire, que je peux organiser, où les citoyens, justement, viennent surveiller le travail que je fais ou que je peux faire ou ce que je peux faire avancer ou pas, ou ce qu'on peut faire avancer ensemble ou pas. Donc, je n'ai aucun problème de ce point de vue et les gens savent très bien qu'à un moment donné, quand on a une question devant nous, il s'agit de faire un choix. Et ce choix, il est toujours politique.
Mais pour rebondir aussi sur la loi d'AFSI qui avait été, à un moment donné, justement... une espèce de rencontre interpartie pour dire il y a quelque chose à faire, inventons une nouvelle manière de rémunérer les auteurs, etc.
C'est un très bon exemple. Oui. C'est un très bon exemple, si, puisque en Noël 2005, donc, quand plusieurs députés présents à l'Assemblée nationale, dont des députés UMP, ont voté le fameux amendement sur, entre guillemets, la licence légale, donc c'était pas, bon, sur la licence légale, qui a mis en échec le gouvernement au moins en décembre. Les députés présents ont défendu une conception des choses qui correspondait à ce qu'ils avaient comme élément de connaissance et de pratique sur le terrain avec les gens, notamment les internautes ou les producteurs de logiciels libres, par exemple, hein, puisque Cazenave, qui est député de Grenoble, lui défendait les entreprises de logiciels qui sont à Grenoble. On s'est retrouvé sur un même sujet, mais qui avait donc pour même objectif de sortir d'une contrainte, d'une politique, j'allais dire, réactionnaire et dure que voulait nous imposer le gouvernement. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit que la plupart des députés UMP qui étaient convaincus, comme moi, qu'il ne fallait pas voter cette loi d'AFSI ont été repris en main, directement pour des raisons politiciennes, et donc politiques très fortement par le président de l'UMP, hein, pour ne pas le citer, Nicolas Sarkozy, dans une fameuse réunion au mois de janvier 2006, où il a donné raison à Donald de Vabre sur la loi d'AFSI, et où il a dit à tous les députés UMP qu'il fallait voter cette loi. Et les députés qui étaient pas trop au courant, ou en tout cas pour une grande part des députés UMP, puisque maintenant malheureusement elle a été votée, ont suivi le choix politique que le parti UMP et Nicolas Sarkozy en personne a voulu imposer pour cette loi. Donc à un moment donné, faire la politique, c'est aussi faire des choix, je répète.
Et c'est mais ceux qui avaient voté contre avec vous à Noël, c'était, ils ont quand même changé d'avis? Ils sont venus à l'Assemblée voter?
Heureusement, je crois qu'ils étaient mal à l'aise, parce qu'on ne peut pas défendre une opinion puis après être contraint de voter contre son opinion. La plupart sont malheureusement pas venus, quoi. Alors on pourrait dire qu'ils n'ont pas eu le courage d'affronter leur parti. Je peux comprendre, d'ailleurs ça peut poser problème, mais ils ne sont pour la plupart pas venus voter pour éviter d'être en contradiction avec leur propre vote, quoi. Mais c'est quand même au-delà d'eux qui sont moi que je respecte sur tous les bancs d'ailleurs de l'Assemblée nationale, qu'ils aient voté ou pas la loi d'Avsi, je respecte tous les députés qui sont présents. C'est toujours pareil, ça, il vaut mieux respecter l'autre si on veut être respecté. Sinon, c'est pas la peine de commencer à demander à ce qu'on soit respecté. Mais je répète encore une fois, la politique, c'est pas de la neutralité, c'est pas j'assume pas. La politique, c'est assumer des choix. Et les choix, ils sont déterminés tous les jours, ils sont déterminés par les institutions aussi, ils sont déterminés dans l'entreprise, dans les entreprises, ils sont déterminés dans les quartiers. Si les gens ne s'emparent pas de leurs propres affaires, ils laissent d'autres déterminer les choix qui les concernent à leur place. Ça, effectivement, c'est soit de la dictature si les choix sont imposés par le pouvoir ou par les pouvoirs, soit c'est un laisser-aller populaire qui appelle à ce que les candidats aux futures élections, par exemple, les séduisent plutôt que d'avoir un vrai débat de fond pour que les choix soient faits dans toute connaissance.
Et donc à propos de ces futures élections, si donc on imagine difficilement que l'UMP s'allie au Parti communiste pour faire un parti de l'intelligence, et comment ça se passe pour donc ce mouvement de la gauche antilibérale qui pourrait rassembler une certaine partie de la gauche, les partis de gauche?
Pour le moment, ça se passe, ça avance encore. Ce qui est nouveau depuis quelques années maintenant, c'est qu'en France notamment, le 21 avril 2002, quand on a retrouvé Le Pen au deuxième tour, tout le monde s'est un peu inquiété, et à juste titre, et à juste raison, parce que là pour de bon, la dictature n'était pas loin. En 2005, les Français ont rejeté la Constitution européenne. Ce qui était nouveau, c'est pas qu'ils l'aient rejeté, mais c'est qu'ils l'aient rejeté parce qu'ils ne souhaitaient pas, ils ne voulaient pas que le libéralisme, c'est-à-dire la loi du marché pur jus, soit appliquée de façon, j'allais dire, autoritaire, parce que ça aurait été une constitution européenne autoritaire dans notre pays et en Europe. Ils ont rejeté le caractère libéral de la constitution, ils n'ont pas rejeté l'Europe, ce qui était un événement fort et nouveau, et un élément nouveau dans le paysage politique, parce que tout le monde faisait croire que dire non à ce référendum, c'était dire non à l'Europe. C'était pas le cas du tout. C'était au contraire dire oui à l'Europe, mais pour une Europe de la solidarité ou des solidarités, une Europe des peuples, une Europe du progrès social. C'est un formidable élan potentiel qui est devant nous. Et depuis le 29 mai, toutes celles et tous ceux qui se sont engagés dans ce combat-là, contre le libéralisme imposé par l'Europe, voulant être imposé par l'Europe, tous ces gens-là ont souhaité et souhaitent encore se rassembler pour justement permettre à ce que cette expression politique, ce choix politique, puisse être matérialisé par un candidat à la prochaine élection présidentielle et par des candidats aux prochaines élections législatives, afin de porter cette idée qu'il faut faire d'autres choix politiques, donc économiques, sociaux, etc., que ceux qui sont faits maintenant depuis, on va dire, 30, 40, 50 ans, quoi.
Mais comment s'appelle donc ce parti ?
Il n'y a pas de parti pour le moment. Tu disais tout à l'heure, est-ce que le Parti communiste restera communiste ou pas ? Il n'y a pas de parti pour le moment. Chacun a des idées différentes, des opinions différentes, et quelque part, c'est une très bonne chose. C'est la diversité qui fait la richesse. Il n'y a pas de parti, mais il y a un rassemblement qui s'est constitué pour le référendum, et il y a un rassemblement qui essaye de se constituer pour l'élection présidentielle. Et c'est dans ce cadre, en tout cas, que les communistes, le Parti communiste, s'est engagé à présenter, par exemple, Marie-Georges Buffet, à proposer Marie-Georges Buffet à ce rassemblement. Ce rassemblement qui est constitué notamment avec des collectifs locaux et par des collectifs et par un collectif national, qui tranchera la question de son candidat d'ici la fin de l'année 2006, pour savoir si on arrivera avec un candidat unique de ce rassemblement aux élections présidentielles de 2007.
Mais qui sont les autres mouvements qui vous rejoignent ?
Il y a une partie des gens de la LCR, une partie des militants socialistes, une partie des militants verts. Il y a des organisations comme Mars, les Alternatifs. Il y a le Parti communiste Escalité. Il y a des citoyens qui ne sont rien du tout, qui ne sont pas engagés ni en politique ni en association. Il y a beaucoup de syndicalistes, il y a des gens qui sont à attaque. Voilà. C'est un mouvement, un rassemblement très diversifié. Et justement, c'est pour ça que ce n'est pas un parti. C'est un mouvement tellement diversifié, mais qui a une même ligne de conduite du point de vue des choix politiques à faire. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire faire des choix qui ne soient pas ceux du libéralisme, c'est-à-dire pas ceux du marché à tout craint, qui lui favorise les gros contre les petits ou qui permet aux gros de surexploiter toujours les petits. Et ça, on le voit malheureusement tous les jours.
Donc c'est pour ça qu'en fait, pour l'instant, on appelle ça la gauche antilibérale, en considérant qu'il y a une gauche libérale.
Ah ben, alors ce qui était vrai, en tout cas, c'est que par exemple, de 1997 à 2002, la gauche qui était au pouvoir, dont le Parti communiste d'ailleurs, hein, voilà, mais avec le PS, le MRG, le mouvement MRC de Chevènement ou d'autres, le Parti radical, non, ce gouvernement n'a pas mené une politique qui a eu le courage de s'engager vraiment contre le libéralisme et pour imposer autre chose que la seule régulation par le marché libre avec la concurrence libre et non faussée. C'est ce qui a amené d'ailleurs en grande part l'échec de ce gouvernement de gauche. Donc à gauche, il y a effectivement des gens qui pensent qu'on ne peut pas faire autrement que d'accepter le caractère libéral de la société et d'accepter le marché tel que. Donc oui, il y a des gens à gauche qui sont plutôt pro-libéraux, quoi. Donc il y a effectivement aussi des gens à gauche et qui, je crois, sont majoritaires si on regarde le référendum sur la Constitution européenne, qui sont majoritaires pour dire qu'il faut que la gauche soit vraiment la gauche, c'est-à-dire une gauche non pas sur les apparences, non pas sur la staracanimisation de la politique comme on le voit aujourd'hui ou sur l'image, mais qui soit vraiment la gauche sur le contenu pour que les choses changent vraiment. Parce que c'est simple, si en 2007 les gens votent à gauche, présidente de gauche ou président de gauche, et avec une élection législative où la gauche soit au pouvoir, parce que ça sera dans la foulée, et que le gouvernement issu de ce scrutin mène la même politique que celle qui avait été menée entre 1997 et 2002, c'est-à-dire qu'on accepte encore le libéralisme, on ne remettra jamais en cause, par exemple, la loi scélérate contre les retraites qu'a mis en œuvre la droite, la loi scélérate contre la Sécu qu'a mis en œuvre la droite, les lois scélérates de la droite du UMP contre le droit du travail, on ne remettra jamais tout ça en cause, et donc il n'y aura pas de changement pour les Françaises et les Français. Et les Françaises et les Français, et les gens seront encore à nouveau dégoûtés par la politique. Et ils diront, finalement, quels que soient ceux que l'on met au pouvoir, les choses ne changent jamais. Ils font des belles paroles et des belles promesses, mais ils ne se mouillent jamais. C'est pour ça que je suis très très favorable, j'aime pas le terme, mais quand même, au jury populaire.
Mais est-ce que vous pouvez imaginer une politique en France qui serait vraiment sociale, solidaire, équitable, et que cette politique ne soit pas menée par les autres pays de l'Union européenne, ou qu'au niveau mondial, on soit justement dans un libéralisme sauvage ? Comment on se débrouillerait tout seul ?
Ben, tout seul, on ne peut pas se débrouiller. Donc c'est bien pour ça qu'il faut qu'il y ait... On a vu avec l'expérience de la Constitution européenne, tout seul, on ne peut pas se débrouiller, justement. Raison de plus pour commencer est d'avoir un pays qui réellement s'engage sur une autre voie que la seule politique libérale et le seul marché. Mais quand je vois ce qui se passe en Amérique du Sud, je me dis qu'on peut très bien avoir un pouvoir et un gouvernement en France qui ait la volonté de s'attaquer au marché où la concurrence est libre et non faussée. Au Brésil, avec Hugo Chavez, etc., sont des gens qui aujourd'hui, en Amérique du Sud, ont des actes concrets pour lutter contre le marché et contre la concurrence libre et non faussée. Et ils ont encore plus de force que nous, enfin de conviction et d'engagement politique que nous, puisqu'ils sont sous la pression directe des États-Unis qui les dominent dans tous les domaines de l'économie et de la société.
Mais donc, est-ce qu'en Europe, vous avez d'autres partenaires sur lesquels s'appuyer pour changer un peu la force
En Europe, la même question se pose. Si en France, on arrivait à faire un candidat antilibéral et donc donner une autre perspective que l'acceptation de la société comme on est, dans laquelle on est, On a des potentialités énormes. En Espagne, il y a un mouvement antilibéral très fort. En Allemagne, les récentes élections ont démontré que ce mouvement antilibéral rassemblait déjà, alors que personne ne s'y attendait, 8% des voix aux dernières élections allemandes. En Italie également, même si la forme était un peu particulière avec les primaires où toutes les forces de gauche, y compris le PS, se sont rassemblées sur un président de gauche, il y a quand même une forte volonté aussi d'aller dans ce sens-là. Dans les pays scandinaves, qui eux maintenant vont peut-être quitter la social-démocratie puisque par alternance c'est la droite qui est conservatrice qui devient de plus en plus forte dans ces pays-là, ils vont être obligés de se poser la question, est-ce qu'on a vraiment été au bout d'une volonté politique, donc d'une volonté forte de transformer les choses pour résister au marché, à la concurrence libre et non faussée. Encore une fois, c'est une question de volonté politique, et ce qui détermine cela et ceux qui ont ce choix-là, ce sont pas seulement les politiques. Eux, ils sont là pour aider à faire une offre, mais ce sont les gens, ce sont les citoyens, ce sont les hommes et les femmes qui eux, notamment, qui votent, voire qui agissent. C'est pour ça que je suis encore une fois très favorable à ce que les citoyens surveillent et contrôlent leurs élus. Moi, j'attends que ça, parce qu'au moins, ça me permet, ce que je fais tous les jours d'ailleurs, mais enfin bon, ça me permet chaque fois de donner tous les éléments et que les gens s'engagent dans les choix à mener. C'est pour ça qu'on obtient beaucoup de choses dans ces quartiers nord. Donc il faudra bien que les gens prennent la mesure de leur propre responsabilité. Donc pour ceux qui sont néophytes en politique, qu'ils ne pensent pas que la politique c'est quelque chose qui ne les concerne pas ou qui serait bien, je ne sais pas où, en dehors d'eux, mais la politique c'est ni plus ni moins, je résume ça, s'occuper de ses propres affaires et intervenir dans la gestion de ses propres affaires. Et c'est pas que ses affaires personnelles, même si ça nous concerne directement, c'est aussi les affaires de tous.
Et donc les échéances, là, c'est quoi les dates pour savoir qui c'est qui sera donc le représentant de cette gauche antilibérale ?
Ben là, pour le moment, les communistes ont proposé Marie-Georges Buffet au rassemblement. Ils vont se réunir dans les 15 jours qui viennent. Et le rassemblement antilibéral, avec les collectifs qui se réunissent régulièrement maintenant, décidera du candidat ou en tout cas de la procédure pour désigner le candidat de rassemblement les 9 et 10 décembre.
Mais est-ce qu'il y a d'autres candidats justement à cette candidature ?
Ben pour le moment, il y a d'autres candidats qui se sont proposés, qui se sont présentés. Il y a José Bové, il y a Clémentine Autain, il y a Yves Salès, il y a Patrick Brahouzek et Marie-Georges Buffet qui se sont dit disponibles pour représenter cette gauche antilibérale, quoi. Donc ben on verra ça d'ici la fin de l'année, quoi.
D'accord, mais alors je viendrai vous interviewer encore quand on sera un peu plus proche de ça. Une petite question pour détendre l'atmosphère. Et est-ce que si la gauche antilibérale était élue, il y aurait un ministère du rock'n'roll ?
Ah, ça serait pas mal, ça me plairait en tout cas. Du rock'n'roll et du rap, puisque j'aime de plus en plus le rap, moi. Donc c'est... Oui, bien sûr, du rock'n'roll et du rap, hein, c'est sûr.
Bon, alors moi, je veux être ministre.
Non, là, c'est pas possible, on va commencer à faire de la politique tous les deux, et moi, je serai concurrent, donc on aura deux candidats pour être ministre.
Merci, monsieur Dutoit. À bientôt.
À bientôt.
Si vous voulez réagir à cette interview, vous pouvez laisser des commentaires sur www.meltingtalk.com. Bye, tchuss, au revoir, à la prochaine fois.